puis je vois ton sourire. Et je t'entends encore me dire, tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut.
La magnifique Oshi, puis t'as dansé avec moi sur RTL. Puis t'as dansé avec moi qui est un extrait de Cœur Parapluie, le troisième album d'Oshi, déjà.
RTL.
RTL, il est 14h. Les infos, Pierre Collat.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. Gabriel Attal en visite chez des agriculteurs dans la Manche, d'abord dans une foire au Bulot, c'était tout à l'heure, puis chez un maraîcher. Accompagné de Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, il vient expliquer et commenter les mesures dévoilées ce matin par le gouvernement, avec un plan d'aide pour 3 départements particulièrement touchés par la sécheresse, les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault, et l'accélération de 100 projets en cours de stockage d'eau ou d'irrigation, et puis de nouvelles aides à la trésorerie. Cela vient compléter les 62 aides déjà dévoilées après les manifestations agricoles de février. Le Premier ministre, qui a par ailleurs réagi à la situation qu'a traversée Sciences Po Paris ces derniers jours, l'école a été bloquée par des étudiants pro-palestiniens qui ont fini par sortir hier soir après avoir trouvé un accord avec la direction. Gabriel Attal a affirmé notamment qu'il n'y aurait jamais de droit au blocage dans les universités. On l'écoute.
J'ai eu l'occasion, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, de me rendre à Sciences Po devant le conseil d'administration pour dénoncer les dérives d'une minorité agissante et dangereuse qui veut imposer à la majorité des étudiants, aux enseignants, une idéologie venue d'outre-Atlantique, essayer de perturber le bon fonctionnement de cette école, qui est une école importante évidemment pour notre pays. Et je le dis, je l'ai dit à l'occasion et je le redis ici, nous ne transigerons jamais sur le respect de la loi et sur le respect des valeurs de la République.
Gabriel Attal au micro RTL de William Galibert. La flamme olympique en route verte vers Marseille, elle est partie ce matin du port du Pirée à Athènes, embarquée à bord du Belém. Impressionnant 3 mâts, 12 jours de navigation jusqu'à la cité phocéenne pour une arrivée triomphale prévue le 8 mai. Le capitaine Aymeric Gibet est très ému et honoré de transporter cette flamme.
Beaucoup d'excitation là, il n'y a que du bonheur, que de l'envie d'y aller. Le passage de Corinthe qui ouvre que pour nous, donc moi j'ai jamais passé. Savoir qu'un jour le canal de Corinthe ouvrirait que pour un navire, le mien, le Belém, avec la flamme olympique. Et puis après, la navigation qui va continuer, cette belle mer Méditerranée qu'on va croiser, la mer Ionienne, arriver dans le détroit de Messine, ressortir les bouches de Bonifacio, Cap au Nord dans le golfe du Lion pour rejoindre Marseille. Donc ouais, le parcours est extraordinaire, l'équipage a l'air vraiment ultra motivé, les jeunes, je crois en eux, j'ai toute ma confiance, vraiment, tout est bon.
Aymeric Gibet, capitaine du Belém, au micro d'Alexia Kefalas pour RTL. Les sports avec à 17h45 à Bordeaux, France-Angleterre, c'est le tournoi destination de rugby féminin. Une finale qui ne dit pas son nom car l'équipe victorieuse remportera le titre. Et puis en Ligue 1, Paris pourrait être champion de France dès ce soir. Le PSG reçoit le Havre à 20h45. C'est à suivre dans RTL Foot à 20h30 sur RTL. Et pour toute l'actualité football, on vous donne rendez-vous dès 19h. On refait les matchs avec Philippe Sans Fourche. La météo de votre samedi après-midi avec encore beaucoup d'instabilité partout en France et des grains orageux, notamment dans le sud-ouest. Des éclaircies assez brèves en alternance avec des averses et parfois de la grêle. Notez que 8 départements du sud-ouest sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France, des Charentes au Gers. Les températures aujourd'hui, elles iront de 12 à 23 degrés de Rennes à Ajaccio, 13 degrés à Ouessant, 15 à Amiens, 16 à Metz, 18 à Bordeaux, 19 à Montargis et 21 degrés à Auch. Les courses, c'est à Auteuil aujourd'hui. Voici les préférés de Dominique Cordier. Le 18, le 4, le 3, le 8, le 16, l'As et le 6. Notez bien, l'outsider de RTL, c'est le 3 Manigance. Départ 15h15. Vous écoutez RTL. Il est 14h04. Dans un instant, on continue d'entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch.
Bonne journée sur RTL. RTL, vivre ensemble. Le Bon Dimanche Show.
Bonjour, je suis Bruno Guillon et demain, dans Le Bon Dimanche Show, je reçois l'auteur à succès Joël Dicker. Et comme tout bon Suisse, il a su rester neutre.
Les autres écrivains, ils sont bien en Suisse ou en France?
Ils sont bien partout, je veux pas d'emmerde, Bruno Guillon.
C'est bien d'être neutre aussi. À demain.
Demain, dès 14h sur RTL, Joël Dicker est l'invité du Bon Dimanche Show, présenté par Bruno Guillon. Entrez dans l'histoire de Beaumarchais
avec Laurent Deutsch sur RTL.
L'affaire Gueusmann est un procès qui va passionner la France entière, à commencer par les Parisiens. Vous vous souvenez de l'association formée par le financier Paris Duvernay et Beaumarchais ? Eh bien, lorsque le premier meurt en 1770, il laisse à son jeune associé 15 000 livres. Oui, c'est peu. L'essentiel de sa fortune allant à un neveu, Alexandre de Lablache. Mais non content de devenir très riche, Lablache soutient que le document accordant les 15 000 livres à Beaumarchais est un faux. Notre écrivain est lavé de tout soupçon en première instance, ce qui rend son adversaire furieux. Il décide de faire appel. A raison, puisque le rapporteur Gueusmann fait casser le premier jugement. Le Parlement de Paris déclare finalement que Beaumarchais est un faussaire. Et il doit rendre au neveu l'argent détourné. Vous vous en doutez, frappé par le déshonneur, Beaumarchais décide de ne pas se laisser faire. Il va contre-attaquer. Il va mettre toute sa science des mots dans des factums, c'est-à-dire des mémoires judiciaires. Les années 1773 et 1774 voient paraître quatre mémoires contre Gueusmann. Beaumarchais s'y montre chroniqueur et pamphlétaire. Il fait rire avec son sens du récit, un vrai auteur de théâtre. Et on se les arrache, ces mémoires. Même le jeune écrivain allemand Goethe, promis au plus bel avenir littéraire, s'en inspire pour écrire un de ses premiers textes, Clavigo. À l'heure du verdict, l'habileté, l'intelligence et la pugnacité de Beaumarchais lui offrent une victoire éclatante. Il parvient à faire révoquer Gueusmann. L'affaire sera finalement tranchée 4 années plus tard, en 1778, et Beaumarchais gagnera contre Lablache, et il sera, selon l'expression de l'époque, déblâmé. Cette période douloureuse pour lui a eu un effet inattendu. Ses écrits plaisent, et ils plaisent même beaucoup. Même Voltaire le dit. Je conseille à Beaumarchais de faire jouer ses factums si son barbier ne réussit pas. Car l'autre grande affaire de Beaumarchais, c'est précisément le barbier de Séville, dont l'écriture a été retardée par cette stupide embrouille financière. C'est son grand projet littéraire. Celui qui affirmera son talent d'auteur en plus de tous les autres. Il sait qu'il est désormais célèbre et le public n'attend qu'une chose, que sa pièce soit aussi drôle que son procès a été divertissant. Mais c'est sans compter sur Madame du Barry qui n'aime pas Beaumarchais. Et elle arrive à faire interdire la représentation du barbier de Séville par les acteurs de la Comédie française. Beaumarchais est effondré. Lui qui se croyait remis en selle, voilà sa carrière d'auteur de théâtre brisée. Enfin bon, vous commencez à connaître notre bonhomme et vous vous doutez qu'il va trouver la ressource nécessaire pour refaire surface. Et c'est alors qu'une idée de génie lui vient en tête. Il se rend chez le roi et lui propose de régler une affaire compromettante pour le couple qu'il forme avec Madame du Barry. C'est l'affaire du pamphlet londonien dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais comme je vous l'ai dit aussi, le roi est mort avant le retour de Beaumarchais. Un drame pour la royauté, mais aussi un drame pour les finances et les projets de notre cher Pierre-Augustin. Le roi est mort, vive le roi ! Beaumarchais va devoir désormais faire la cour à Louis XVI. Et nouveau coup de pouce du destin, Beaumarchais apprend qu'un nouveau pamphlet attaque cette fois le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. Et comme par hasard, ce nouveau pamphlet nous vient lui aussi d'Angleterre. Désormais habitué à ce genre d'opération, Beaumarchais s'y rend et fait brûler les brochures litigieuses. Ayant ainsi gagné la confiance du jeune couple royal, il peut désormais faire représenter son barbier de Séville. Comble de distinction, la reine Marie-Antoinette en personne jouera quelques années plus tard le rôle de Rosine et son beau-frère, le futur Charles X, sera Figaro. Le barbier de Séville est un tel triomphe qu'il inspirera une dizaine d'opéras. Mais Beaumarchais ne va pas pour autant se consacrer de façon exclusive à sa prometteuse carrière d'auteur de théâtre. Certes, il va achever une immortelle trilogie, débutée avec le barbier de Séville, poursuivie par le mariage de Figaro, puis achevée avec la mère coupable. Mais Beaumarchais a décidément le tempérament trop vif pour rester à une table de travail. la diplomatie et l'espionnage l'attendent de pied ferme et le font rêver. Alors, direction l'Amérique.
La vie de Beaumarchais revient tout de suite dans Entrer dans l'Histoire sur RTL. S'en lasse pas, The Beloved, Sweet Harmony sur RTL. RTL.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, à ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€ le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Pfiou, c'est tout propre ça.
Va falloir éviter les moustiques, hein.
Pour ça, vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes, moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
Laurent Deutsch sur RTL.
Entrez dans l'histoire de Beaumarchais.
Désormais célèbre grâce à son barbier de Séville, mais ruiné aussi par l'affaire Gussmann, dont il est sorti vainqueur, mais traumatisé, Beaumarchais a un nouveau projet en tête. Il envisage de traverser l'Atlantique pour aider les insurgents des colonies britanniques d'Amérique à obtenir leur indépendance. Il en parle à Louis XVI et à son ministre des Affaires étrangères, Vergennes. Les deux hommes veulent bien aider les colons à se libérer du joug britannique, mais ils veulent le faire avec discrétion, au moins au départ. Il ne faudrait surtout pas déclencher une nouvelle guerre avec l'Angleterre. Beaumarchais agira donc en cachette. Ça, il n'y a pas de problème, Beaumarchais a l'habitude. Mais comme il ne fait jamais les choses à moitié, il arme quand même 40 navires. Officiellement, ils vont naviguer pour la société d'import-export, Rodrigue Hortalez et compagnie, qui transporte en fait des armes données par le gouvernement français. Destination officielle, les Antilles, mais destination réelle, les futurs États-Unis. Dans cette affaire, c'est Beaumarchais qui fait l'intermédiaire entre Louis XVI et George Washington. Alors certes, Beaumarchais a très envie d'aider les Américains à conquérir leur liberté, mais c'est aussi pour lui une opportunité politico-commerciale. Si notre homme sait penser, il sait aussi compter. Mais malheureusement, Beaumarchais va jouer de malchance. Car les Américains, malgré ses relances, ne le paieront quasiment pas. Et d'ailleurs, 25 ans après sa mort, sa propre fille se rendra en personne aux États-Unis, où le Congrès lui octroiera une somme dérisoire par rapport à ce que la jeune nation devait à son père. Oui, ça faudrait pas qu'ils l'oublient, les Américains. Ils ont toujours une dette envers la famille Beaumarchais. Pour l'heure, d'autres aventures attendent notre homme. La vie de couple en est une. Car voici Beaumarchais de nouveau en ménage. Cette fois, c'est avec Marie-Thérèse de Villers qu'il appelle méchamment la ménagère. Ils ont une fille en 1777, mais ils ne se marient que 9 ans plus tard, une chose rarissime à l'époque. De toute façon, Beaumarchais ne fait rien comme les autres. Sur la question des mœurs, il se présente lui-même comme un partisan de la liberté, ajoutant « Voilà sans périphrase et au positif comment je suis libertin. » Alors bien sûr, à l'approche de la cinquantaine, il nuance son propos. « Il y a 20 ans, j'étais un jeune homme aimable. Chaque fleur avait droit au coup d'œil de l'amateur. Hélas, cet heureux temps du coquinisme est bien loin. » Alors, quel nouveau combat pour Beaumarchais à l'orée des années 1780? Eh bien, une nouvelle idée fixe, les droits d'auteur. C'est-à-dire le droit pour un auteur d'être rémunéré de façon juste et régulière. C'est d'ailleurs le triomphe du barbier de Séville qui incite un jour Beaumarchais à demander à la Comédie Française le montant des recettes des représentations. Et là, on lui répond pas franchement. Alors, il réunit 21 auteurs joués à la Comédie Française et crée le Bureau de législation dramatique, qui se transformera en Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, et qui existe toujours d'ailleurs. Mais le combat sera lent et il faudra attendre 1791 pour que la première loi sur la propriété littéraire et artistique soit adoptée. Là encore, un succès à l'initiative de Beaumarchais. Autre grand projet, après la mort de Voltaire en 1778, Beaumarchais s'est mis dans la tête de publier ses œuvres complètes. Ouais, il prévoit une édition de luxe en 40 volumes et une édition populaire en 60 volumes, rien que ça. Mais où éditer un tel projet? En tout cas pas en France, où Voltaire est toujours à l'index. Oui, les dévots et les parlements dont Voltaire s'est copieusement moqué tout au long de sa vie entendent bien s'y opposer. Mais, armé d'un bon sens désarmant, Beaumarchais a la solution. Et si, tout simplement, on installait une imprimerie en face de Strasbourg, sur la rive allemande du Rhin? Le droit français n'y a pas d'influence. Beaumarchais s'attelle donc à ce projet ô combien polémique. Mais diriger depuis Paris une telle entreprise n'est pas chose facile. D'autant que le gouvernement français a juré que pas un seul exemplaire des œuvres de Voltaire ne serait disponible dans le royaume. De toute façon, un tel projet prend beaucoup de temps, et c'est pas plus mal, car il ne sera achevé qu'en 1789, année de la Révolution. 70 volumes ont finalement pu être édités, et c'est accompagné de cette édition voulue par Beaumarchais que Voltaire fera en 1791 son entrée au Panthéon.
Dans un instant, retour d'entrée dans l'histoire de Beaumarchais.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
Miley Cyrus, Flowers sur RTL.
La radio de la collection Georges Lang.
Le rock dans tous ses états sur la radio de la collection
Georges Lang.
Retrouvez la radio de la collection Georges Lang sur le site rtl.fr ou l'application RTL. C'est simple et c'est gratuit.
Yeah, yeah. Wow. Merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4 euros, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4 euros, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule glouglou, stock limité. Plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Burger.
fortune.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Pas vrai, Jean ?
Absolument.
Alors écoutez ça. Aujourd'hui, pendant le Top Rayon, exclusivement avec ma carte Netto, recevez un bon d'achat de 30% du montant dépensé sur tous les produits d'entretien de marque Netto.
30% en bon d'achat ?
Oui, grâce à ma carte Netto dans l'application de votre téléphone.
Pour le grand nettoyage de printemps, voilà une offre qui sent bon les économies.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Offre réservée aux porteurs de ma carte Netto. Plus d'infos sur netto.fr.
Vivez un moment hors du temps et ressourcez-vous au domaine de Chaumont-sur-Loire. Découvrez plus de 30 créations remarquables réalisées dans le cadre du Festival International des Jardins. Chaque jardin propose une promenade unique autour du thème Jardin source de vie. Retrouvez le Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire jusqu'au 3 novembre avec RTL. Entrez dans l'histoire de Beaumarchais
avec Laurent Deutsch sur RTL.
Une observation s'impose, les amis. Beaumarchais a écrit peu. Oui, outre sa célèbre trilogie Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro et La Mère Coupable, il n'a écrit pour le théâtre que trois autres œuvres, moins appréciées d'ailleurs. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, la grande œuvre de Beaumarchais, c'était sa vie, en fait. Et alors qu'il commence à prendre de l'âge, voici que la Révolution éclate en 1789. Il n'est pas pour rien, d'ailleurs, dans cette révolution. Il a lui-même dénoncé dans Le Mariage de Figaro ceux qui se sont seulement donné la peine de naître. C'est-à-dire les privilégiés de la société. Alors, bien sûr, il s'enthousiasme pour les idées nouvelles. Mais n'oubliez pas quand même que toute sa vie, il a été proche, et même très proche, de la cour et de la famille royale. Et peu de temps avant la chute de Louis XVI, une rumeur circule même dans Paris. Beaumarchais serait nommé ministre de l'Intérieur d'une monarchie à bout de souffle. Tout cela est faux, mais cela accrédite la thèse de la duplicité du célèbre écrivain. Il est suspecté de tout et de son contraire. Et finalement, il est arrêté dans sa vaste maison du quartier de la Bastille. Transféré devant ses juges, il se défend très bien, comme on pouvait s'y attendre. Et alors qu'on est sur le point de le libérer, un homme s'avance et s'y oppose. Il a pour nom Jean-Paul Marat. Beaumarchais aurait sûrement préféré que Marat reste dans sa baignoire ce jour-là, car il le fait incarcérer à la prison de l'Abbaye, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et là, les amis, je peux vous dire que la guillotine se rapproche. Mais une fois de plus, la chance sourit à Beaumarchais. Car quand il ne se bagarre pas lui-même comme un lion, c'est sa compagne, ou plutôt sa maîtresse de l'époque, qui entre dans la bataille. Elle s'appelle Amélie Houret et parvient à convaincre le procureur général de la commune, Pierre-Louis Manuel, de faire relâcher Beaumarchais. C'est pas passé loin. Et Beaumarchais est à présent convaincu qu'il vaut mieux ne plus faire de vagues. En plus, à présent, il a vieilli, il a passé la soixantaine, ce qui était un bel âge pour l'époque. Vieilli et devenu quasiment sourd, il a toujours le don de l'observation. En quelques mots, voici comment il juge l'Ancien Régime en le comparant à la France moderne. Jadis, quand je dînais chez les grands de l'État, j'étais toujours choqué du ramassis de gens de tout caractère que la seule naissance faisait admettre. Des sots, des imbéciles, des hommes vains de leur richesse. Mais aujourd'hui, à table, il n'y a pas une personne qu'un grand mérite personnel n'ait mise au poste qu'elle occupe. Et c'est finalement dans la nuit du 17 au 18 mai 1799 que la mort frappe Beaumarchais dans son sommeil. Il est enterré dans le jardin de sa maison avant d'être transféré en 1822 au cimetière parisien du Père-Lachaise, car sa maison était vouée à disparaître, des immeubles remplaçant peu à peu les jolies demeures parisiennes. De lui, il demeure le souvenir d'un passionné et d'un esprit libre qui fit un jour dire à son cher Figaro cette phrase passée à la postérité et qui est en quelque sorte la signature, l'épitaphe de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Alors merci, monsieur de Beaumarchais. La semaine prochaine, un autre esprit génial, un animal politique extraordinaire qui a préparé la France du grand siècle, le cardinal de Richelieu. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Ophélie Meunier et son confidentiel. Bon après-midi sur RTL.
Bon après-midi sur RTL.
RTL, vivre ensemble.
Ophélie Meunier, 14h30, 15h30.
Confidentiel
sur RTL.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTL. Vous écoutez Confidentiel, on est ensemble pendant une heure pour découvrir la face cachée d'une personnalité. Derrière les grands destins se cachent toujours des zones d'ombre. Et c'est là que Confidentiel vous emmène chaque semaine. Elle est le phénomène mondial du moment, Taylor Swift. Une pop star américaine de 34 ans, l'une des plus grosses vendeuses de disques au monde. Ce succès, évidemment, lui donne une aura, une influence qui, vous allez le voir, pourrait avoir même un impact sur le choix du prochain président des États-Unis. La semaine dernière, elle a sorti un nouvel album qui est déjà le plus écouté de l'histoire sur Spotify en 24 heures. Mi-mai, elle sera en concert en France, à Paris et à Lyon. Mais qui est donc cette énorme star ? Comment en arrive-t-on ? Simple chanteuse de country au départ, à faire trembler Donald Trump à quelques mois de l'élection présidentielle américaine. L'histoire est loin d'être un long fleuve tranquille. Confidentiel Taylor Swift, c'est tout de suite. Et juste après, on continuera à décrypter le phénomène avec Morgane Giuliani, journaliste spécialiste de pop culture et autrice du livre Taylor Alison Swift, la rebelle devenue icône aux éditions Talents.
And I'll write your name.
Ophélie Meunier.
Confidentiel, Taylor Swift sur RTL.
On est en plein désert californien aux États-Unis le samedi 13 avril 2024. C'est là que se tient l'un des festivals les plus branchés au monde, Coachella. Chaque année, toutes les plus grandes stars de la planète se retrouvent à la fois sur scène et dans le public. Ce soir-là, des hurlements de fans se font entendre. Taylor Swift est dans une zone VIP juste à côté des festivaliers pour assister au concert de la rappeuse américaine Ice Spice et du chanteur Jack Antonoff. Taylor est au bras de son petit ami, le joueur professionnel de football américain Travis Kelce. La présence de la pop star américaine est d'autant plus remarquée qu'elle n'avait pas mis les pieds à Coachella depuis 2016, donc 8 ans. Elle danse, elle chante dans le public, au point même de voler la vedette aux artistes qui sont en train de performer sur scène. Mais l'escale festive est de courte durée, Taylor doit assurer la promotion de son nouvel album qui sort quelques jours plus tard, le 11e, dont les ventes vont probablement encore exploser tous les records. En 2024, avec déjà 18 ans de carrière à son actif, Taylor Swift aura vendu près de 200 millions d'albums dans le monde et elle réalise la tournée internationale la plus rentable de l'histoire de la musique, oui oui, même plus rentable que Madonna et Beyoncé. À la fin de son Eras Tour, elle totalisera près de 2 milliards de dollars de recettes. À l'été 2023, Swift a annoncé faire un joli cadeau à tous ceux qui travaillent sur son show. Les techniciens son et lumière, les employés, les danseurs, tous. Elle leur a offert une prime de 55 millions de dollars au total, ce qui fait un peu plus de 51 millions d'euros en cadeau. Mais qui est cette blondinette mignonnette, cette Miss Americana, comme elle se désigne elle-même, qui a réussi en 15 ans à mettre le monde de la musique à ses pieds? Son rêve de gosse? Faire écouter au public des chansons qu'elle a écrites, qui parlent d'elle et dans lesquelles les fans peuvent se reconnaître. Eh bien, elle le réalise plus que jamais. Taylor Swift est au sommet. Elle est aujourd'hui l'industrie de la musique. Alors comment cette petite fille bien élevée, sachant très vite où elle voulait aller, s'est-elle construite ? Comment s'est-elle relevée des coups durs qu'elle a vécus ? Car oui, il y en a eu quelques-uns, vous allez voir. Swift est aussi une redoutable businesswoman qui a construit un empire. Pour comprendre l'histoire du phénix Swift, direction la Pennsylvanie, une guitare, quelques airs de country, là où Taylor a découvert la musique et sa passion, avant de prendre sa revanche sur le monde cruel de l'industrie musicale américaine. Taylor, le phénix, est dans Confidentiel. Vous écoutez Confidentiel Taylor Swift, restez avec nous, on se retrouve juste après ça.
Confidentiel Taylor Swift
avec Ophélie Meunier.
Découvrez My Match en exclusivité sur Winamax. Créez votre pari sur mesure en choisissant plusieurs sélections sur un même match de football et obtenez votre cote personnalisé. Buteur, score exact, nombre de buts marqués. Avec My Match, donnez une cote à votre intuition.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RTL.
Le jour où son mari Aymeric est victime d'un grave accident de voiture, Alice voit sa vie s'écrouler. Face à l'incertitude du destin, elle va devoir s'adapter aux épreuves pour faire renaître l'espoir. Prendre la vie comme elle vient, un roman qui nous parle de la vraie vie. Cette vie remplie d'obstacles, mais surtout d'amour et de courage. Prendre la vie comme elle vient de Karen Ponte est disponible aux éditions Pocket.
Jardiland célèbre son jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
Charolaise.
Bartonaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui.
Confidentiel. Taylor Swift.
Avec Ophélie Meunier.
Sing, dance and be yourself. Chante, danse et sois toi-même. C'est presque trop facile. Pourtant, c'est exactement la recette gagnante qui a fait le succès de Taylor Swift. Ajoutez à cela du talent, du travail, un peu de chance et quelques accros avec d'autres musiciens qui ont braqué les projecteurs sur elle. On n'atteint pas des sommets sans quelques moments troubles. On ne le dit jamais assez dans Confidentiel. Oui, la jolie petite Taylor n'aurait jamais pensé que tout cela soit possible. D'ailleurs, l'essence même de la musique country, ses premières amours, c'est l'humilité. Dire « je suis là, devant vous, je vous chante ça sur moi, et je ne suis pas meilleur que vous finalement ». C'est ça le point de départ de l'histoire de Taylor Swift from Pennsylvania. Est née le 13 décembre 1989 à West Reading, dans une ferme où sa famille vendait des sapins de Noël. Elle grandit dans la foi chrétienne, elle passe ses étés dans une école biblique et elle apprend très vite à être une gentille petite fille, a good girl. Trop gentille, trop lisse, trop blonde, trop belle, trop américaine. Pour faire la différence, vous l'avez compris, il va falloir se battre. Mais Taylor n'a absolument pas peur de ses envies. Elle sait très vite et très tôt ce qu'elle veut faire de sa vie. Écrire des chansons et les interpréter elle-même. Dès l'âge de 9 ans, la fan de Shania Twain et Leanne Rimes, deux figures féminines de la country aux US, se produit déjà sur scène. Tous les week-ends, elle joue dans des bars, des clubs de sport ou des salles de karaoké. Pour aller plus loin dans sa carrière, elle et sa famille le savent, il y a un passage obligé. Il faut savoir qu'aux États-Unis, si vous voulez devenir un vrai chanteur de country, vous devez un jour aller à Nashville, voire vivre à Nashville, Tennessee. Vous me voyez venir ? Ni une ni deux, à peine adolescente, avec deux parents qui croient en elle comme personne, ça c'est important, Taylor Swift monte dans un avion, direction Nashville. You can try. Dans la rue de la ville où toutes les maisons de disques sont alignées les unes à côté des autres, la fameuse Music Row, Taylor Swift ouvre chaque porte et dépose des bandes démos qu'elle a enregistrées lors de sessions de karaoké. C'est toujours la même scène. Elle entre, se présente, dépose ses chansons et dit qu'elle aimerait signer un contrat d'artiste. À 11 ans, avec toute sa naïveté, bon, elle ne réussit pas tout de suite à convaincre, mais croyez-moi, elle va persister. Sa première prestation remarquée se passe à Philadelphie, dans un stade avant un match de basket. Pour ouvrir la rencontre, Taylor chante « The Star-Spangled Banner », l'hymne national américain. Elle a 12 ans, Ce n'est pas ultra bluffant, mais c'est touchant. En parallèle, elle écrit et finit par réussir à décrocher un premier contrat. Alors pas en tant qu'artiste, mais en tant que parolière. Elle a donc 14 ans à peine quand Sony ATV la prend sous son aile. À noter que c'est historiquement jeune pour ce genre de contrat avec une maison de disques. Toute la famille Swift fait ses cartons et emménage dans le Tennessee. Taylor est alors une lycéenne qui a déjà une vie pas vraiment comme les autres. Quand ses camarades de classe traînent après les cours, elle bosse. Elle rencontre les noms influents de la country et elle compose en permanence. À cet âge, alors qu'elle n'est qu'une enfant, elle a déjà la vision de ce qu'elle veut faire. Toute sa vie tourne autour de l'écriture et c'est ça qui va faire la différence. Elle aurait pu choisir la facilité et chanter des textes qu'on lui écrit ou écrire pour les autres. Non, son rêve à elle, le plus profond, c'est d'interpréter ses propres chansons. Et il faut croire que c'est une bonne idée, car les premiers titres qu'elle sort vont tout de suite cartonner. Comme le raconte la spécialiste de la pop culture Morgan Giuliani dans son livre Taylor Alison Swift, la rebelle devenue icône, c'est en plein cours de maths que la jeune fille a l'idée de son premier titre, Tim McGraw. Elle l'écrit en un quart d'heure et puis elle n'y pense plus pendant 3 mois. Cet accident, comme Swift le décrit, sort en single à l'été 2006 et c'est un carton. Cette chanson romantique et nostalgique se vend à 1 600 000 exemplaires. Taylor Swift devient l'une des seules adolescentes à avoir percé dans la country. Jusqu'à ce jour. Où la best friend des ados américaines va se faire, devant les yeux de l'Amérique, son premier ennemi public, et pas n'importe lequel. Taylor Swift n'a pas toujours éclipsé les autres chanteurs, comme on le racontait au début de ce récit au dernier festival Coachella. Pour exemple, ce moment en 2009, qui restera probablement l'une des plus grandes humiliations de la jolie blonde du Tennessee. On est le 13 septembre 2009 à New York. C'est le soir des MTV Video Music Awards. Les VMAs, c'est l'une des cérémonies américaines les plus attendues du monde de la musique chaque rentrée. Ce soir-là, un clash inattendu va se produire sur scène et il va secouer l'Amérique et la vie de Taylor Swift pour plusieurs années. La chanteuse a 19 ans. Elle reçoit le prix de la meilleure vidéo féminine de l'année pour son clip « You Belong With Me », dans lequel d'ailleurs elle est secrètement amoureuse d'un étudiant qui est dans l'équipe universitaire de football américain. Son compagnon d'aujourd'hui, avec lequel elle forme l'un des couples les plus glamour de la planète, est joueur professionnel de football américain. On reviendra sur ses amours. Taylor Swift monte donc sur scène lors de ses VMAs, toute heureuse d'avoir été récompensée. Une robe qui brille avec une épaule dénudée, un chignon sage, les lèvres rouges et son sourire ultra bright. Elle est parfaite. Peut-être trop. Et pas encore la pop star qu'elle est aujourd'hui. Alors qu'elle s'apprête à entamer les remerciements de circonstance, Kanye West, il faut préciser qu'à ce moment-là, il est déjà au firmament du rap américain, fait irruption sur scène, coupe Taylor dans son élan, saisit un micro et lance. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Taylor, je suis très heureux pour toi, je te laisserai finir après. Mais Beyoncé a fait l'un des meilleurs clips vidéo de tous les temps. Le clip dont il parle, c'est celui de la fameuse chanson Single Ladies. Comprenez donc, dans les mots de Kanye West, Taylor, tu reçois ce prix aujourd'hui, c'est super pour toi, et je ne peux pas y faire grand-chose, mais sache que c'est clairement Beyoncé qui devrait être à ta place à cet instant précis sur cette scène. Taylor perd instantanément son sourire. Elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe, la salle non plus d'ailleurs. Beyoncé, qui est installée au premier rang dans le public, ne sait plus où se mettre. On est bien en train d'assister à l'un des moments les plus gênants de la télé américaine, mais aussi à l'un des plus fondateurs de la carrière de Taylor Swift. Car oui, même si à cet instant-là la pop star voudra disparaître, cette humiliation finira par lui rendre service. Même Barack Obama, alors président en exercice, réagira à cette passe d'armes entre Kanye West et Taylor Swift en disant que le rappeur a eu un comportement inapproprié. La chanteuse racontera que ce moment dans sa carrière l'a fait tomber psychologiquement à un niveau jamais atteint auparavant. Kanye West ne la laissera jamais vraiment tranquille. Il multipliera les provocations jusqu'à dire « I made that bitch famous » dans la chanson « Famous » sortie en 2016. Comprenez, sans moi, Taylor ne serait jamais devenue la star qu'elle est, tout en l'insultant au passage. Southside niggas that know me best. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. Goddamn! I made that bitch famous. Et c'est comme si l'affaire Kanye avait alors permis aux langues de se délier. Taylor Swift est à cette période, en 2016, l'objet de rumeurs assez désobligeantes sur la camarade de classe qu'elle était à l'école par exemple, ou sur ses relations amoureuses. La presse la lâche. Un hashtag Taylor Swift est fini devient viral sur les réseaux sociaux. Il est important de préciser qu'entre la première rencontre entre Taylor Swift et Kanye West en 2009 et la fameuse chanson insultante en 2016, Taylor Swift est devenue une star. Elle vend des millions de disques et elle décroche des récompenses en permanence. Malgré tout, en 2016, elle sombre et elle décide de disparaître pendant plusieurs mois pour se ressourcer. Elle se coupe de tous ses réseaux sociaux sur lesquels elle est alors suivie par des centaines de millions de personnes. La descente aux enfers de Swift, elle est aussi physique. Pendant plusieurs années, elle s'inflige une maigreur qui met sa santé en danger, sa santé mentale aussi. Pourquoi elle commence à perdre du poids? Pourquoi, disons-le, elle devient anorexique? À cause des paparazzades. Elle ne supporte pas l'image que les photos renvoient d'elle. Dans son documentaire Miss Americana, la pop star revient sur cette période d'anorexie. Dès que je voyais une photo de moi où mon ventre était trop gros ou que quelqu'un disait que j'étais enceinte, ça déclenchait cette envie de m'affamer un peu, d'arrêter de manger. Elle poursuit « Je pensais qu'il fallait que je me sente au bord de l'évanouissement à la fin de chaque concert, voire en plein milieu. Maintenant, je réalise que si tu manges, tu as de l'énergie, tu es plus forte, tu peux enchaîner les concerts et ne pas te sentir fragile. » Elle finit par confirmer qu'elle se sent aujourd'hui beaucoup mieux dans sa taille 38 de femme. Taylor Swift, un phénix. Après chaque chute, elle a cette capacité de renaître, voire de revenir encore plus haut et encore plus fort.
Confidentiel. RTL. Ophélie Meunier.
Hello everybody, it's Ryan Gosling. J'ai eu la chance de voir le film Un petit truc en plus de mon ami Artus. J'ai rigolé énormément et c'est beaucoup de l'émotion. C'est vraiment un super film. Merci Ryan. Si comme Ryan Gosling, vous voulez découvrir Un petit truc en plus, ça sort le 1er mai au cinéma. Je vous fais des bisous. Un petit truc en plus, un film Nutri-Score A. Attention, ce film peut contenir des traces d'Alice Belaïdi et Clovis Cornillac.
Avec RTL. RTL.
Pendant les Oscars Odaise, Oscaro.com vous offre jusqu'à 70% de remise sur des milliers de pièces et produits. Oscaro.com, la référence pour votre auto.
Conditions sur le site. Oscaro Odaise signifie les jours Oscaro.
À tous ceux qui disent « À table !» juste avant que le repas soit prêt. À ceux qui mettent les assiettes, comme ça, ça fera venir les autres.
« À table !»
À ceux qui commencent à servir, parce que de toute façon, il faut tout faire soi-même dans cette maison.
« À table !»
Et à ceux qui finissent par couper le Wi-Fi.
« À table !»
Jusqu'à samedi, Intermarché propose la côte de bœuf origine France à seulement 14,90€ le kilo.
Oh, « bah ça va, c'est bon, j'arrive !»
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine, côte 3 étoiles à griller.
Trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Confidentiel, Taylor Swift.
Avec Ophélie Meunier.
La tourmente chez Swift, elle est aussi sentimentale. John Mayer, chanteur américain de blues rock. Taylor Lautner, acteur très populaire, connu notamment pour son rôle dans la saga Twilight. Harry Styles, faut-il le présenter, issu du groupe au succès planétaire One Direction. Ou encore Calvin Harris, chanteur, producteur qui a travaillé avec Rihanna ou Katy Perry. Taylor Swift est connue pour avoir eu dans sa vie quelques hommes, et pas des moindres, souvent tout aussi star qu'elle. Ce qui l'a aussi beaucoup construite en tant qu'artiste, chacun de ses flirts a donné naissance à une, voire plusieurs chansons. Entre octobre 2012 et janvier 2013, donc à peine 3 mois, la chanteuse est en couple avec Harry Styles. Le duo est scruté par la presse People, vous l'imaginez, dans ses moindres faits et gestes. Quand ils se séparent, Taylor compose Out of the Woods et Style, dont la destination est à peine cachée, et ses paroles assez explicites. J'ai entendu que tu étais sortie avec une autre fille. Ce que tu as entendu est vrai. Les deux titres inspirés de l'histoire avec l'ancien One Direction sont disponibles sur l'album 1989, l'opus pop que Swift a écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires. Ils ne sont donc pas passés inaperçus. L'intéressé, l'amoureux et conduit, a réagi dans une interview à la radio américaine. « Je trouve ça assez flatteur, même si la chanson ne l'est pas réellement. Tu passes quand même du temps dessus et Taylor est une excellente compositrice, donc ses chansons sont bonnes. » Ça n'a pas empêché Taylor Swift d'être accusée de se servir des hommes pour vendre des disques. Pas sûr que l'on ferait la même remarque à un artiste masculin. Mais comme Swift prend toujours sa revanche, sa vie sentimentale semble aujourd'hui s'être adoucie. En juillet 2023, la popstar se met en couple avec Travis Kelce, joueur de football américain. Son équipe a remporté le dernier Super Bowl, Swift y était. Après la victoire, la superstar, qui était en tribune, descend sur la pelouse pour féliciter son homme et l'embrasser. Ce soir-là, 123 millions de personnes sont devant le Super Bowl. C'est un record d'audience historique pour la télévision américaine. On peut pousser l'analyse en disant que Swift n'y est probablement pas pour rien. Que l'histoire entre la chanteuse et son sportif dure ou pas, elle se passera sous les flashs des photographes et sous les yeux du monde entier. Cette euphorie à chacune de ses apparitions, elle est loin d'avoir eu lieu partout et tout le temps. Il y a encore quelques endroits dans le monde où la chanteuse blonde a une revanche à prendre. Paris. Nous sommes en 2011. Taylor Swift fait son premier zénith français. Alors qu'outre-Atlantique, elle connaît déjà le succès avec ses premiers albums country, le concert parisien est à peine à moitié rempli. Des bâches sont installées sur les sièges vides à la dernière minute. Elle le vit, franchement, comme un camouflet. 3 ans plus tard, de retour dans la capitale française, Swift est en pleine promotion pour son album 1989. Elle est invitée dans un talk show réputé et très regardé. Elle interprète en live son dansant Shake It Off et elle donne de sa personne. Là, il faut avouer que pendant toute la performance, le flegme des autres invités de l'émission est assez déroutant. À peine si Gérard Jugnot, pour ne nommer que lui, ne bâille pas en regardant la star américaine. Mais quel est le problème entre Taylor Swift et la France ? Première hypothèse, les références culturelles des débuts de la star sont très
américaines et ne parle pas beaucoup au public français. Deuxième hypothèse, les textes de Taylor Swift, pas forcément très recherchés, mais pour le moins très sincères, ne touchent pas les Français qui ne sont pas les plus à l'aise avec la langue de Shakespeare. Entre 2014 et 2019, hasard ou pas, plus de Taylor en France. En 2019, de passage en promotion dans un télécrochet musical, elle confirme en interview adorer Françoise Hardy et Brigitte Bardot. « Elles m'ont beaucoup inspirée », dit-elle. « J'ai regardé tellement de photos d'elles, j'aime le côté classique, intemporel qu'elles ont apporté à la mode. Mais je pense que la mode française inspire le monde entier, non ? Vous avez une sensibilité, une manière de communiquer qui m'inspire beaucoup. » D'une salle à moitié remplie en 2011, à 4 dates complètes à Paris La Défense Arena, ce qui fait 160 000 tickets vendus 13 ans plus tard, en France aussi, visiblement, la Swift Mania a fini par opérer. Aussi douce et gentille qu'elle apparaît depuis toujours, Taylor Swift n'a jamais caché son côté rebelle, quitte à risquer de s'écrouler, ce qui ne s'est jamais vraiment produit. Et elle a quelques combats gagnés à son actif assez étonnants. L'histoire probablement la plus marquante est celle de son combat contre les plateformes de streaming. L'industrie de la musique a radicalement changé avec l'arrivée des Apple Music, Spotify ou encore Deezer pour écouter ses artistes préférés ou en découvrir d'autres. C'est aussi tout un modèle économique qu'il faut repenser pour ceux qui écrivent et qui interprètent comme Taylor. Les stars vendent mécaniquement moins d'albums physiques. Dès le départ, Swift est convaincue que les plateformes de streaming dévalorisent le travail des créateurs. En 2014, elle fait un choix radical. Elle retire tout son catalogue de Spotify, à qui elle reproche de ne pas mettre suffisamment en avant les artistes majeurs comme elle. Cela représente un gros manque à gagner pour la plateforme qui se prive de l'album 1989, je le disais, l'un des plus gros succès pop de la carrière de Taylor. En 2015, c'est contre Apple Music qu'elle se soulève. Pour son lancement, la plateforme propose 3 mois de gratuité, sauf que les artistes ne sont pas non plus rémunérés pendant cette période. Impensable pour Taylor Swift, elle parle même d'une tactique choquante. Non seulement Apple Music va revenir sur sa décision, mais va en plus convaincre la chanteuse d'être l'une de ses premières égéries. Rebelle un jour, rebelle toujours. Autre histoire. À ses débuts, Taylor Swift a enregistré 6 albums avec une maison de disques sous un contrat plutôt en sa défaveur. Pour le dire simplement, elle ne possède pas les droits sur ses propres chansons et l'entreprise ne lui a pas permis de les racheter à des conditions acceptables. La maison de disques s'est même fait beaucoup d'argent grâce et donc sur le dos de Taylor. Ne pouvant pas récupérer les premières versions de ses chansons à succès, tout le début de sa carrière, Taylor Swift décide de faire ce qu'aucun autre artiste n'a encore fait dans l'histoire de la musique, tout réenregistrer. C'est ce qu'on appelle les Taylor's Versions, les versions de Taylor. Pour bien comprendre, les premières chansons existent toujours et sont disponibles. Écoutez. Mais les nouvelles versions vont dépasser en qualité les précédentes et le public adhère immédiatement. Aujourd'hui, ce sont ces Taylor's Versions qui sont majoritairement écoutées. Et pour finir sur ce chapitre, depuis 2018, Taylor Swift a réussi à négocier avec son nouveau label d'être propriétaire de ses masters, une véritable prouesse dans l'industrie de la musique. Au-delà du business, l'autre immense force de Swift est plus étonnante. Ce sont ses fans, les fameux Swifties. Elle a grandi avec son fan club et a toujours su faire en sorte que son public sache qu'il fait partie de son histoire et de son succès. Elle leur parle, vraiment. Elle les rend importants, elle les rend intéressants, Elle leur fait des cadeaux. Elle les remercie sans cesse. Alors à chaque épreuve, c'est toute une communauté de fans hyper engagés qui se soulève pour elle. Taylor Swift, c'est la bestie, la meilleure amie qu'on rêve tous d'avoir.